Herrscher.
Bienvenue pour le 173e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'un sujet de saison, puisque c'est le printemps. Je vous propose une introduction à la photo de nature, ou plus précisément la photo animalière, avec Sébastien Beghelli de NaturaPix. Premier segment pour vous rappeler que Déclencheur, outre l'épisode que vous êtes en train d'écouter, c'est également un site qui vit, un site qui s'enrichit de jour en jour et que je vous invite à visiter sur www.déclencheur.com. Vous y trouverez bien entendu tous les épisodes de Déclencheur que vous pourrez télécharger sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone mobile pour les écouter en voiture, en métro, en faisant le ménage ou lors d'une balade en nature, que cette balade d'ailleurs soit photographique ou non. Bref, Déclencheur, vous l'écoutez où vous voulez, quand vous voulez. Sur le site, vous pourrez également vous abonner et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'abonnement iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS, c'est-à-dire tous les navigateurs, la page d'accueil de Google, Netvibes, Wikio et plein d'autres services. Bref, vous avez le choix. Enfin, et c'est important, c'est sur www.déclencheur.com que vous pourrez également réagir sur tous les sujets traités sur Déclencheur. Toujours sur le site, à côté des émissions, vous trouverez un blog qu'on appelle Déclencheur Carnet qui vous ouvre les coulisses de Déclencheur. Par exemple, comment on enregistre une émission par téléphone? Ou encore, pourquoi faut-il absolument acheter un bon casque si l'enregistreur vous démange? Mais Déclencheur Carnet parle également de photos, bien entendu, avec beaucoup de notes récentes qui réfléchissent ou présentent des tendances du marché, par exemple les notes sur les Canon Legria ou le Lumix GH1, mais il y a également des conseils photos, des conseils sur le recadrage par exemple, des conseils avec la présentation de quelques magazines photos ou plus prosaïquement, un bref état du marché de l'occasion. Plein de bonnes choses à découvrir. Et enfin, dernière portion du site, le Wiki News, qui est notre manière d'aborder l'actualité, avec les annonces produits, mais aussi des tests, des comptes rendus rédigés par les auditeurs de Déclencheur, rédigés par des photographes donc. Je pense par exemple au test du DVD Retouche Photo de Mode, un DVD Kimob vient de sortir, et en plus, on vous offre un code cadeau de 5€ à l'achat de ce DVD. Je pense aussi à la découverte de la nouvelle collection des rolls avec par exemple découvrir le Canon 1000D. Mais le plus important, c'est que le Wiki News, c'est votre espace, puisque comme tous les wikis, il est complètement éditable, donc libre à vous d'ajouter des pages sur n'importe quel produit, livre, matériel ou exposition. Et tout cela et bien plus donc sur www.déclencheur.com. Deuxième segment. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Je suis avec Sébastien Beghelli de NaturaPix, qui est un site consacré à une activité de la photo qui devient peut-être de plus en plus populaire. C'est la photo nature, la photo d'animaux et la photo de paysage de façon plus générale, ou c'est vraiment spécifique la photo animaux?
Alors, il y a la photographie nature. Donc, dans la photographie nature, on inclut la photographie animalière. On inclut aussi la photographie de paysage, on inclut aussi d'autres techniques comme la macrophotographie, donc la photographie d'insectes ou la photographie de fleurs rapprochées. Dans une certaine mesure, on inclut aussi l'astrophotographie, donc la photographie du ciel.
Ici, je propose qu'on se concentre surtout sur la photo animalière. J'ai l'impression que la photo animalière, c'est une photo qui a une composante technique assez forte. J'imagine toujours le photographe animalier comme ayant des grands télés, affûts, etc. Est-ce que c'est vrai ?
Je dirais que la qualité première n'est pas forcément le fait de savoir maîtriser son appareil. La qualité première, c'est de connaître la nature. Savoir observer, par exemple, les oiseaux, savoir se balader dans la forêt sans déranger les animaux. À partir de là, une fois qu'on a cette connaissance du sujet, une connaissance assez conséquente, à partir de là, on peut photographier la nature, ne serait-ce qu'avec du matériel bas de gamme. Donc évidemment, les images ne ressortiront pas avec la même qualité. Mais à partir du moment où on devient un vrai passionné de photographie nature, alors on a un budget assez conséquent. Et là, effectivement, on se retrouve avec du matériel, on pourrait dire du matériel haut de gamme, donc des prix très élevés.
Photographie sport de riche.
Voilà.
C'est comme le golf. Façon.
D'ailleurs, le matériel finalement d'un photographe nature se rapproche de celui du photographe de sport. Je prends l'exemple très simple du téléobjectif. Donc quand je dis téléobjectif, je parle du téléobjectif 500 mm par exemple. Ce matériel-ci, évidemment, il faut savoir le manier. Donc voilà, cette composante technique dans la photographie nature, effectivement, même si elle apparaît en second, voilà, à partir du moment...
On commence avec, tu disais, une connaissance de la nature elle-même, et là on peut travailler avec à peu près n'importe quel matériel. Il y a toujours la question, quand on s'intéresse à un nouveau sujet, est-ce que je m'achète un 500 juste pour voir si ça me plaît? Ou est-ce que...
Dans le parc de matériel, il y a beaucoup de petits zooms. Je prends l'exemple du 70-300. C'est un prix relativement moins élevé que les 500. Mais ça permet déjà de s'approcher de la nature, de commencer à faire de belles photographies. Et je dirais que ce matériel sert un peu à doser sa passion pour la photographie nature, parce que il faut faire une différence entre donc se balader dans la nature, observer les oiseaux, les jumelles. C'est pas parce qu'on aime faire ces activités nature qu'on va forcément aimer prendre des photos. Donc effectivement, comme tu le disais, dans ce cas-là, celui qui aura acheté un gros équipement qu'il n'utilisera pas, évidemment, ça sera un peu bête. Donc le conseil, c'est déjà de se procurer un matériel, on va dire, de, je dirais pas de bas de gamme, mais un matériel qui permet d'essayer. Je dirais un petit réflexe, donc un réflexe, donc là on n'est plus dans le compact, on n'est plus dans le bridge. Alors là j'insiste sur le fait que s'acheter un zoom plutôt qu'une focale fixe, c'est intéressant dans le sens où on peut aborder tout type de photographie. Si on s'achète par exemple, pour commencer, un objectif qui est spécialement dédié à la macrophotographie, donc avec une petite focale, par exemple un 60 mm, bon avec ce 60 mm, on va croiser des oiseaux, on ne va rien pouvoir faire. À l'inverse, si on s'achète un gros téléobjectif et finalement qu'on se dit « Ah, j'aurais bien aimé prendre des insectes, prendre des plantes, etc. » Voilà, on ne va rien pouvoir faire non plus. Donc l'acquisition d'un petit zoom permet de s'essayer à plusieurs sujets. Là, ça dépend de chaque photographe. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, on trouvera une passion pour telle ou telle approche de la photographie nature. De là, on pourra s'acheter effectivement un équipement plus conséquent.
Tu disais, c'est pas nécessairement parce qu'on aime la nature, c'est pas parce qu'on aime se promener dedans qu'on aime la photographier. Mmh. Ça paraît un peu paradoxal, ça.
Alors, ça paraît un peu paradoxal, mais une des qualités premières d'un photographe nature, c'est la patience. Attendre l'animal, attendre que la brise s'arrête, pour que la brindille s'arrête et pouvoir la prendre nette, revenir le soir, savoir repartir bredouille d'une séance d'affût, avoir le courage de revenir le lendemain... Je dirais que ça peut en freiner certains. Et donc, à l'inverse, se balader dans la nature, bon, ça, tout le monde sait faire. Voilà, c'est pas parce qu'on aime la nature qu'on va forcément apprécier la photographie nature.
Comment est-ce que je démarre? J'ai mon petit réflexe, j'ai mon télé 70-300 que tu recommandais. Est-ce que je peux démarrer en ville? Est-ce qu'il faut attendre un week-end à la campagne? Voilà.
On ne va pas sur le terrain comme ça. Malheureusement, il y en a qui le font, mais l'idéal voudrait que tout le monde sache exactement où il va et ce qu'il veut. Et c'est très important, quand on débute la photographie nature, d'abord de prendre des conseils. Que ça soit auprès de professionnels ou même auprès d'associations, comme la Ligue de protection des oiseaux. Donc il y a une association qui lutte pour la protection des oiseaux en France. On dira, bah alors bonjour, je suis débutant, que me conseillez-vous? Quels sont les conseils que vous me donnez pour ne pas déranger les oiseaux? Où puis-je voir telle espèce d'oiseau? Et c'est aussi intéressant de partager les premières sorties que l'on fait. Par exemple, on dit, je suis allé photographier des oiseaux dans un parc à côté de chez moi, donc je vous montre mes photos, que pensez-vous de mes photos? Donc là, il y a l'aspect vraiment technique. Et que pensez-vous de mon approche nature? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je risque pas de déranger les oiseaux? Voilà. Est-ce qu'ils risquent pas d'avoir des problèmes? Tout le monde a le droit d'aller dans la nature. Hein. Évidemment, il y a des espaces protégés, mais tout le monde peut aller, ne serait-ce que dans le parc, un parc dans une ville, il y a déjà beaucoup de sujets intéressants. Dans les parcs de ville, on a plein de passereaux, des rouges-gorges, même des merles, des moineaux. Il y a plein de sujets intéressants pour ne serait-ce que découvrir enfin les oiseaux que l'on a, par exemple, étudiés dans des livres ou autres, et pouvoir commencer à doser un peu son matériel. C'est pareil, dans les parcs de ville, on a tout ce qui est fleurs, insectes. Donc là, pour s'entraîner à la macro, c'est aussi intéressant. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont dans les villes. Les personnes qui sont à la campagne, eux, ont un peu plus de chance, évidemment. Elles ont un espace naturel un peu plus conséquent autour d'elles. Alors là, ça va de leur connaissance. Donc là encore, avoir la connaissance des espèces animales qu'il y a autour. Là, c'est vraiment se rappeler, je suis passé en voiture par tel coin, il y avait un petit étang qui était sympa, ou je vais demander à telle personne si je peux utiliser son terrain pour installer mon premier affût. Voilà, donc en fait, je dirais que le débutant peut faire absolument ce qu'il veut en tant qu'approche photographique, mais surtout ne pas négliger les conseils liés à la préservation de la nature et à l'approche de la nature pour ne pas risquer évidemment de déranger la nature. Parce que si on obtient une belle image en ayant complètement dérangé, par exemple, un couple d'oiseaux, c'est raté, quoi. La photo est là, mais l'éthique n'est pas là.
Tu mets l'accent sur un sujet qu'on a déjà abordé il n'y a pas très longtemps avec Ronan Fournier, qui était venu parler de son DVD, c'est l'importance de respecter la nature. Alors, il y a un truc qui m'étonne dans ce que tu dis. Je peux l'imaginer quand on va dans un petit étang. J'ai beaucoup plus de mal à l'imaginer dans un parc.
Alors, ce que tu dis est vrai. L'approche de la nature est surtout valable dans des lieux un peu plus sauvages. Alors, c'est sûr que les parcs voient passer des milliers de personnes, donc les oiseaux sont plus ou moins habitués. Ce n'est surtout pas une raison pour approcher de trop près les oiseaux. Une des grandes tentations d'un débutant, qui se rendra compte après que c'est un tort, c'est de se dire bah, « j'ai réussi à photographier un petit rouge-gorge, il est joli, mais j'étais trop loin ». Donc il dit « je vais refaire une tentative en m'approchant », etc., etc. Donc il veut absolument avoir le rouge-gorge en plein dans le cadre. Tout d'un coup, il se rapproche tellement qu'en passant, il renverse un nid. Il y a des oiseaux qui font leur nid très bas. Il renverse un nid, c'est toute une famille d'oiseaux qui est complètement déstructurée après.
Alors, il faut quand même être prudent, mais c'est moins. Voilà. Il y a effectivement moins de risques que dans la nature sauvage.
Voilà. Alors, une des solutions, évidemment, c'est de faire donc des appâts pour les animaux. Quelqu'un qui a la chance d'avoir un jardin, par exemple, place une mangeoire. Donc là encore, il a observé la façon dont la lumière arrive sur l'arbre. Donc, le photographe place une mangeoire, place des graines. On peut effectivement en tirer des photos. Bien évidemment, quand on parle de photographie de mangeoire, on ne parle pas de photographier l'oiseau directement sur la mangeoire. Quand on photographie des passereaux, il est important de se construire un studio à l'air libre. Par exemple, de repérer une belle branche où les oiseaux pourraient être amenés à se poser avec leurs graines. Donc là encore, je reprends toujours mon terme d'observation. En observant bien les allées et venues des oiseaux, on peut se dire, à cet endroit précis de l'arbre, il y a tout le temps un oiseau qui y va à peu près toutes les 30 secondes, donc je vais placer mon trépied, je vais placer ma composition, et là, tout est question d'entraînement. Alors après, effectivement, chez les photographes qui ont un peu plus d'expérience, on peut très bien appâter des plus gros, je reprends l'exemple des oiseaux, on peut appâter des plus gros oiseaux avec de la viande, par exemple. Des rapaces qui verront un morceau de viande, on peut en tirer des images formidables. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de photographes qui réalisent de très belles images en ayant appâté leur sujet. Mais, j'allais dire, le photographe lui-même aura peut-être un peu plus de satisfaction à se dire « j'ai attiré l'espèce juste grâce à mes observations, en observant son train de vie, j'ai pas observé grâce à des appâts ». Alors attention, hein, je dis pas que c'est une technique qui est contre nature, c'est le cas de le dire. Donc évidemment, bon, on a droit à des appâts.
Est-ce qu'il n'y a pas un élément, à mon avis largement à tort, parce que quelque part en photo, comme dans n'importe quelle autre activité, à un moment il faut faire ses gammes, mais on a tous envie de faire des images un peu uniques. Et dans ce que tu nous proposes là, les photos de passereaux dans le parc ou les photos de passereaux dans son jardin, est-ce qu'on n'a pas un phénomène où tout le monde a un peu la même photo ?
Beaucoup de photographes passent par la photographie des passereaux. Et je dirais pas forcément que le débutant veut faire la photo du siècle hein, avec des passereaux, mais ce genre de photographie nature sert en tout cas à bien utiliser son matériel. Alors c'est sûr, une fois que le photographe sera parfaitement manié son petit zoom ou son téléobjectif, là, il voudra effectivement passer à des sujets qui sont moins abordés. Donc, il voudra photographier des oiseaux plus grands. Pour te donner un exemple très simple, un photographe peut se rendre en France dans des réserves naturelles. Donc, je prends l'exemple du parc ornithologique de la Baie de Somme, qui donc est une réserve naturelle avec des oiseaux totalement sauvages qui viennent dans ce lieu pour se reposer. Et donc, tout au long des parcours, il y a des affûts. Donc, concrètement, le photographe est caché derrière des panneaux de bois pour ne pas déranger les oiseaux. Donc les oiseaux, si tu veux, ça entraîne certaines qualités du photographe. Par exemple, la vivacité, ça entraîne l'acuité visuelle aussi, parce qu'il faut apprendre à observer les oiseaux, apprendre à même à reconnaître les oiseaux à leurs cris et à leurs chants. Donc je dirais que c'est tout un ensemble, si tu veux, de connaissances qui servent aux débutants pour pouvoir réaliser ses premiers projets photographiques, donc par exemple sur les oiseaux.
Qu'est-ce qu'on cherche en fait dans une photo d'animal? Et on va rester sur les exemples qu'on a évoqués là, de passereaux dans le jardin ou dans un parc. À quoi est-ce qu'il faut être attentif? Est-ce qu'il vaut mieux isoler l'animal, le prendre avec l'environnement autour? Est-ce qu'on veut beaucoup de profondeur de champ, peu de profondeur de champ? Comment est-ce qu'on gère la vitesse, etc.?
Que ce soit pour des mammifères ou des oiseaux, généralement, on travaille effectivement à grosse vitesse. Donc c'est de l'ordre, par exemple, de 1 sur 200 ou 1 sur 300, notamment pour la photographie d'oiseaux et les gros téléobjectifs. Il faut savoir photographier avec une vitesse très rapide, de sorte à avoir l'oiseau très net. Hein.
Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de profondeur de champ ou pas?
Dans la macrophotographie, c'est très important d'avoir un fond flou, par exemple, pour isoler l'insecte sur le bout d'une feuille. C'est la même chose pour les oiseaux. Si derrière, on voit le bosquet, bon, l'oiseau va se confondre, ça va pas être très beau. Donc il faut savoir aussi, bien évidemment, jouer sur la profondeur de champ, de sorte à isoler le sujet. Donc il y a une évolution de l'approche de la photographie nature. Il n'y a ne serait-ce que 20 ans, les photographes, un bon cliché, c'était par exemple avoir une tête d'oiseau en gros plan. Ouais. C'était un défi que le photographe se posait, et c'était formidable de voir l'œil, la pupille de l'oiseau. Bon. Au fur et à mesure des années, cette photographie a plus ou moins évolué vers la photographie de nature de composition. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des photographes photographient l'animal et son environnement. Pour reprendre l'exemple des passereaux, il ne s'agit plus d'avoir, par exemple, le rouge-gorge en gros plan. Il s'agit d'avoir le rouge-gorge sur sa branche, avec, à l'opposé de la photographie, une petite feuille qui descend, avec une belle lumière, parce que c'est pareil, il y a encore quelques années, du moment qu'on arrivait à avoir l'animal en question en photographie, on était content. Avec l'évolution du matériel et surtout l'avènement du numérique, si tu veux, cette photographie qu'on qualifiait de même d'exploit, le fait vraiment d'avoir une tête d'un animal que l'on trouvait rare, par exemple un renard, bon, c'était une photographie d'exploit, mais avec donc l'avènement du numérique, de plus en plus de gens ont eu accès à du matériel important et ont pu approcher l'animal et ont pu faire le même type de photo. Et donc naturellement, que ce soit les professionnels ou les amateurs, on a cherché, pour se démarquer des autres photographes, à réaliser ce que j'appelle des photographies de composition. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus seulement le sujet qui compte sur la photographie, c'est le sujet dans ce qu'on appelle son biotope, c'est-à-dire son environnement.
Tu as plusieurs fois évoqué l'affût. Quand on visite les parcs dont tu parles, on trouve effectivement ces petites constructions où on peut aller s'installer. Quand on est touriste, on s'y installe 2 minutes, on regarde un petit peu, on trouve ça mignon, puis on s'en va. C'est pas la bonne technique, si je comprends bien.
Enfin, j'appelle ça des affûts, c'est plutôt des observatoires, donc des petits cabanons en bois. Mais après, il faut bien distinguer autre chose, c'est qu'en dehors des parcs, donc là, je parle, par exemple, un photographe qui a repéré à côté de chez lui une petite prairie où il voit souvent des rapaces, des choses comme ça. Là, le photographe peut commencer à réaliser lui-même son affût. Donc là, on n'est plus dans des structures mises en place par des entités. Donc si tu veux, le photographe a 2 possibilités pour un affût terrestre, c'est-à-dire un affût qui est posé par terre. Soit il achète des affûts qui sont déjà faits, donc qui sont par exemple réservés aux chasseurs. Donc là, c'est sous forme de petits dômes, c'est comme une tente mais en bien plus petit. Donc ces dômes sont de couleur kaki, nature, avec des similis de feuilles. Donc ça, ces structures,
ça coûte cher.
On trouve des affûts corrects à partir de 100 euros.
D'accord.
Donc on a cet affût préfait que l'on peut acheter, et sinon on a l'affût, ce qu'on appelle un affût naturel. Donc là, c'est le photographe qui va fabriquer lui-même son petit cabanon. Donc là, le photographe crée d'abord une structure généralement métallique pour que ça soit solide, avec des tubes de métal. Et sur cette structure, il peut soit mettre une toile de couleur kaki, donc généralement achetée dans les magasins de surplus militaires. On ne va pas mettre du rouge ou du jaune. Et par-dessus, pour encore plus le confondre dans la nature, il peut rajouter des branchages, des feuilles, un peu tout ce qu'il veut, du moment que son affût se fonde dans la nature. Donc c'est totalement accessible, ne serait-ce que pour les débutants. Mais après, effectivement, il y a quelque chose d'encore plus simple si on veut faire un petit affût, c'est de se servir des éléments naturels déjà en place. Je prends l'exemple d'une forêt. On trouvera toujours un arbre un peu courbé, on mettra des branches autour, et finalement, ça ne nous aura rien coûté, pas besoin de structure métallique ou quoi que ce soit, et pourtant, on sera bien caché.
Tu parlais d'une petite tente couleur kaki. On était parti d'un champ, j'ai l'impression que ça ne va pas être la même couleur, c'est pas grave ?
Non, c'est pas grave. L'important, surtout, c'est d'avoir des couleurs que l'animal est amené à rencontrer, que ce soit dans le champ, ou en volant, ou en survolant. S'il survole un champ en voyant quelque chose, je ne sais pas, de vert fluo par exemple, il va se dire « Oula, ça je ne connais pas, je n'y vais pas ». S'il survole un champ en voyant une couleur un peu grise, il va se dire « Ah, ça peut être une pierre, ça peut être je sais pas, une boîte de foin ou quoi que ce soit ». Donc si tu veux, avant de placer un affût, généralement il y a une phase d'observation du lieu où on va placer l'affût. Observer là où l'animal va. Par exemple, ne pas mettre un affût juste en face d'un terrier. Par exemple, le renard ne pourra plus rentrer dans son terrier sans compter sur l'affût, c'est véridique. Donc, ne pas se mettre sur leur chemin, se mettre sur des endroits où la lumière pourrait être intéressante, se mettre sur des endroits où ils ne nous sentiront pas, un peu préserver du vent. Donc, tu vois, il y a toute une phase.
Et ça prend à peu près combien de temps pour faire ce repérage ?
Pour l'exemple du chevreuil, je dirais qu'il faut 1-2 semaines pour commencer à jauger les habitudes du chevreuil. À quelle heure il sort le matin ? Où il va pour manger ? Parce que la nature, à l'inverse de l'ensemble des photographies, la photographie nature, on ne contrôle pas le sujet. C'est une des seules photographies où on ne contrôle pas le sujet. Donc on ne peut pas lui dire « pose ici, pose là, arrive à telle heure ». Donc pendant 2 semaines, il va vraiment regarder toutes les habitudes et ce dont je te parlais tout à l'heure, surtout le chemin, parce que la plupart des animaux ont l'habitude de prendre le même trajet tous les jours. Donc à partir de là, très facile pour un photographe...
Mais trop boulot, dodo.
Exactement. Donc à partir de là, très facile pour un photographe de pouvoir élaborer un petit plan de travail photographique en se disant « Eh ben écoute, je vais placer mon affût ici parce que j'ai remarqué sur 15 jours, il est allé 13 jours manger ici. Donc je vais me mettre ici. À telle heure, le soleil sera parfait pour la lumière. » Alors l'idéal, évidemment, c'est de placer son affût quand l'animal n'est pas sur le terrain. Par exemple, beaucoup de photographes placent leur affût pendant la nuit. Et s'il a très bien placé son affût, il aura un animal pendant toute la journée. Généralement, le photographe ressortira tard le soir. On peut placer un affût pour que l'animal s'habitue à l'affût. Même si un affût est bien caché, qui respecte les couleurs qui se font dans la nature, l'animal est très observateur. Il se dira, tiens, il y a quelque chose de nouveau dans mon environnement, qu'est-ce que c'est ? Le fait d'avoir personne dedans pendant plusieurs jours, ça voudra dire que finalement, bon, c'est un élément naturel qui s'est rajouté.
C'est un air qui a poussé.
Voilà, d'une certaine façon. Il faut vraiment que l'animal ne craigne plus du tout l'affût. Et à partir du moment où on sent que l'animal prend toujours son chemin naturel, n'a pas de problème, à partir de ce moment, eh bien, on se lève un jour, un matin, à 5h, on dit « je vais faire mes photos, je ne dérange pas l'animal ». Et l'animal verra le même affût, sauf que dedans, cette fois-ci, il y aura le photographe.
D'accord, ok. Comme tu le disais, il faut de la patience.
Alors, il faut extrêmement de patience, d'autant qu'il arrive que quelqu'un qui place son affût pour la première fois, même s'il a fait de belles observations juste avant, est à le déplacer les jours suivants, parce qu'il a mal jaugé la distance, ou le chevreuil est encore trop loin, ou le chevreuil, justement, au contraire, est trop près, donc ça risque de le déranger avec le bruit.
Comment est-ce qu'on s'organise dans l'affût ?
Alors, selon la durée à laquelle on a prévu de rester dans l'affût, il y a plusieurs éléments de confort. Donc déjà, indispensable, le trépied. Second élément indispensable, une petite chaise ou un petit tabouret. Et pour le confort, bien évidemment, bon, certes, on observe dehors, hein, avec ses jumelles, on commence par observer, mais une fois qu'on a observé une, deux heures, là, on sait à peu près quand l'animal va apparaître. Et c'est pas parce que l'animal va réapparaître seulement deux heures après qu'on a le droit de s'en aller de l'affût et de revenir. Donc là, on peut très bien imaginer prendre de la lecture.
Ou... un iPod pour écouter déclencheur.
Par exemple, en faisant attention à ne pas mettre trop fort. Tout ce qui est matériel photographique, donc ce qui est conseillé quand on prépare son affût, par exemple à 6h du matin, c'est de bien tout préparer avant que le premier animal arrive. Donc on rentre dans l'affût, on déballe son matériel, on enlève à la rigueur tout ce qui est sac un peu bruyant, on ouvre ses clips de carte mémoire pour éviter de faire du bruit. En fait, si tu veux, on prépare vraiment sa journée de sorte à ce que l'animal ne se rende même pas compte qu'il y a un photographe à l'intérieur de l'affût.
Là, tu fais l'hypothèse que le photographe est avec son appareil photo. Est-ce qu'il est raisonnable de placer l'appareil et puis d'être à plus grande distance, de télécommander ou d'avoir des systèmes de prise automatique ?
Il y a des photographes qui approchent des espèces un peu farouches, donc en plaçant leur objectif juste à côté. Grâce à l'évolution des télécommandes, maintenant, on a des distances de déclenchement beaucoup plus importantes. Donc, ils se mettent vraiment à la distance maximale, qui observent de loin aux jumelles et qui déclenchent. Il y a même des photographes qui font deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'ils placent un appareil, ils déclenchent à distance, et entre-temps, ils prennent d'autres photos avec un téléobjectif. Donc comme ça, ils font du deux en un, en fait.
Ils couvrent les deux necs. Voilà. Sébastien, je propose qu'on termine en examinant d'autres ressources. Donc d'abord, il y a NaturaPix. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une communauté en ligne vivace autour de la photo animalière ?
Alors, la photographie animalière sur Internet, je dirais, est en plein boom. On trouve une grosse communauté de photographes via un forum, Benelux Nature Photo. Et dans ce forum, il y a vraiment un échange entre les photographes, un échange de techniques photographiques, des critiques d'images, un échange sur les événements particuliers.
Il y a également différents bouquins qui existent sur le sujet. Je sais qu'on en a quelques-uns qui sont pris sur le Wiki News de Déclencheur. Et puis tu me montrais une revue Images et Nature qui ne traite que de la photo animalière.
Alors voilà, sachant qu'il y a beaucoup de titres nature, donc je prends l'exemple de Terre sauvage, qui montrent des images nature sans forcément parler technique, mais qui sont déjà intéressants à consulter pour le photographe afin de se faire une idée des sujets qu'il peut aborder.
On ne serait pas complet sans parler du grand festival de Monty-Ander.
Alors, Monty-Ander est effectivement un très très grand festival international consacré exclusivement à la photographie de nature. Et donc, ce genre de rendez-vous nature est vraiment très très utile pour les débutants, pour les passionnés et même pour les experts, ne serait-ce que pour partager des expériences, découvrir le travail d'autres photographes via des expositions, voire tester de l'équipement photographique que l'on pourra peut-être acquérir un jour.
Ok, je crois qu'on a fait un bon tour d'introduction du sujet. Sébastien, merci pour le temps que tu as pris et que tu nous as consacré.
Merci.
Et donc, on rappelle l'adresse du site, c'est naturapix.com.
Exactement.
Ok, merci.
Au revoir.
Salut. Troisième segment avec les réponses aux commentaires. Ça fait un long moment qu'on ne s'était plus retrouvés autour des commentaires. Des messages d'encouragement reçus de passagers, Lurluberlu, Wasdar, Stéphane, Schrakapouet, Philippe C, Quémy, Marcol, Vivian Mas, avec un long message qui flore bon la passion photo naissante. Andéol, photographe mariage, Louis Plage, Didier Bop et Pierre-Luc. Merci à vous. Je travaille beaucoup en coulisses en ce moment et donc vos messages me font chaud au cœur.
Des réactions plus spécifiques sur les épisodes maintenant, avec d'abord la rencontre avec la rédaction du magazine Photo, qui a donné lieu à des réactions assez contrastées. Gérald Brion, Sam Hott, Alain Bachelier, Pep, Flodine et Tennis ont vraiment apprécié la rencontre, alors que Wumpat, Arakis et Ojo sont moins positifs. Je crois qu'on l'a entendu dans l'interview, c'est une équipe passionnée, avec des positions parfois un peu tranchées, et donc forcément, on aime ou on n'aime pas, mais Photo ne laisse pas indifférent. Et c'est bien pour ça que je voulais vous présenter l'interview. Le sujet sur les accessoires pour flash a lui aussi bien plu, avec des avis sur divers accessoires à lire, donc si vous cherchez du matériel, des avis d'Antoine Magnier, de Gilles F, qui a posté plusieurs avis sur le Wiki News, de Pegomas, de DD23, de FB54, de Defecto, de Peter, de David Auberry, qui a lui aussi a publié sur le Wiki News, et plein de bons conseils de terrain, donc des auditeurs de déclencheurs. Lightroom Rec, quant à lui, avoue qu'il parcourt toutes les ressources sur le sujet, y compris des ressources anglophones, parce qu'il souhaite progresser sur cette technique. Si c'est le cas à Lightroom Rec, je t'invite à lire la dernière note de Déclencheur Carnet, où je conseille deux livres excellents. Sur la présentation DxOMark, création de Pegomas, de Jorg, de FXImage, qui regrette d'ailleurs certaines limites de DxOMark, Nicolas Touchard, je crois, s'est expliqué de ses limites dans l'interview. Il faut se rappeler que Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est d'ailleurs l'avis de AstroMB, Ojo, Ericsos et Spot, qui eux apprécient la base DxOMark pour ce qu'elle est. Pierre BGT note qu'on ne s'intéressait pas qu'à la pellicule du temps de l'argentique. Nous sommes bien d'accord, je crois que c'est d'ailleurs toujours d'actualité, donc on ne va pas s'intéresser qu'au capteur, mais il y a quelque chose d'autre qui a changé. À l'époque de l'argentique, la presse traditionnelle essayait d'entretenir une fiction, celle d'être le seul média, la seule source d'information sur la photo. Celle d'être le seul média, même s'il y avait des écoles, même s'il y avait des clubs, même s'il y avait des stages, même s'il y avait des livres, chaque titre se comportait comme s'il était le seul et voulait apporter toute l'information. Pour un site, ce n'est pas nécessaire parce qu'il est évident qu'on passe de l'un à l'autre. Donc en l'occurrence, il me semble évident qu'on va consulter DxOMark pour les informations capteurs et d'autres sites pour d'autres informations avant de prendre une décision. Sur l'épisode Charte grise, Olivier demande s'il faut donc deux chartes. Réponse d'Emmanuel, ça dépend de tes exigences, mais la charte pour la balance des plans est sans doute le premier des deux achats. Sur le festival des photos amateurs de Toulouse, Defecto est ravi de ce festival. Flodine est prof de français, corrige une faute de prononciation. C'est noté, merci les amis. Sur le sujet objectifs et champignons, Archaeofocus apporte quelques précisions techniques. Quant à Shadow et Wasdar, il confirme l'intuition de Marc, les champignons ne sont plus des végétaux. Et Pluton n'est plus une planète, tout se perd. Arakis se plaint de coupures dans l'enregistrement et j'avoue que je ne vois pas à quoi il fait référence. Donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, on essaiera de corriger le défaut. Ah, le sujet de la convergence photo et vidéo avec des réactions très marquées et un mini-sondage de Shine75, Marmotte, Firis, Maurice et Andatal qui trouvent qu'il n'y a pas, contrairement à ce que je laisse entendre, de demande des consommateurs pour la vidéo sur un appareil photo et en particulier sur un réflexe. Réponse du berger à la bergère avec les commentaires de Vulcain Design, Thibaut, Reox, Nicolas Esposito, Jeff, Alain Z13 et David Auberry qui, eux, soit attendaient cette fonction, soit en trouvent l'utilisation. Ce serait assez long de vous expliquer ce que j'entendais en fait par demande consommateur, et donc plutôt que de m'y essayer maintenant, je vous invite à lire une note sur Carnet, où d'ailleurs je maintiens à mon avis, il y a une vraie demande consommateur, mais, et c'est sans doute là où je rejoins Shine75 et les autres, la demande n'est pas nécessairement dans les utilisateurs de réflexe. C'est un sujet qui bouge beaucoup, c'est un sujet qui divise, et moi j'ai un peu l'impression de revivre l'arrivée du numérique avec des avis parfois vraiment très tranchés. Sur le sujet Polaroid, Romain et KF pointent vers The Impossible Project qui veut relancer l'usine Polaroid en Hollande. DBL8 conseille la pellicule et Bork Maggio croit que l'usine Polaroid mexicaine tourne toujours et produit toujours des packs images. Alors sur ce dernier point, je suis vraiment pas certain parce que Polaroid a quand même annoncé la fermeture de toutes ses usines. Sur des épisodes plus anciens, commençons par l'épisode sur l'archivage avec une question de Matt64 pour savoir quel format survivra dans 30 ans. Franchement, j'en sais rien. Et si quelqu'un te dit autre chose, eh bien emprunte-lui sa machine à voyager dans le temps et ramène-moi les chiffres gagnants de la loterie pour la semaine prochaine. Donc, personne ne sait quel format survivra dans 30 ans, mais on considère que les formats ayant été publiés, ou les formats basés sur des normes, par exemple le XMP, l'EXIF, IPTC, DNG, JPEG, TIFF, sont des formats qui ont plus de chances d'être lisibles dans 30 ans que par exemple des formats propriétaires non publiés comme la plupart des formats RAW. Denis demande s'il faut graver des DVD à basse vitesse. Je le fais, mais il faut des médias supportant les basses vitesses. Antoine Magnier propose un complément à l'épisode sur l'exploration urbaine, complément sous la forme d'une vidéo enregistrée au club. Friette se plaint de la compression de cet épisode. Quant à Philippe L, il n'apprécie pas les images HDR. Enfin, Greg corrige une erreur de Delphine dans le sujet mesure de l'exposition. Le D80 mesure en effet sur 400 zones exactes. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à Déclencheur pour être certain de ne rater aucun épisode à l'avenir. L'abonnement est gratuit, ça signifie simplement que vous êtes averti de la sortie des nouveaux épisodes. Tous les renseignements sont sur www.déclencheur.com. Et en attendant la semaine prochaine, lisez bien entendu le blog Déclencheur Carnet sur www.déclencheur.com. À bientôt donc.